Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine, émission de science tous les samedis entre 12h et 13h. On s'intéresse à l'actualité scientifique pendant une petite heure dans cette émission. Toutes les semaines, on essaye de voir un petit peu ce qui se passe dans le monde pour ensuite avoir des impacts sur notre quotidien à nous, au niveau de la médecine, au niveau des technologies, des matériaux, de l'énergie, de l'espace également. C'est ce que nous vous proposons dans cette émission tous les samedis entre 12h et 13h. Je m'appelle Jean-Noël et je suis très heureux de vous retrouver. Je vous souhaite un bon week-end Pascal, c'est encore le printemps de Bourges d'ailleurs en ce moment, donc si vous êtes fan de musique, vous pouvez encore vous rendre au festival du printemps de Bourges qui a lieu tous les ans, j'allais dire pendant le printemps tout simplement, parce que comme ça, que c'est, sinon ça s'appellerait autrement, c'est idiot ce que je raconte, mais en tout cas voilà, c'est Biotine, l'émission de science tous les samedis sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et graphite.net, pour ceux qui nous écoutent sur internet, nous sommes le 20 avril, l'émission du samedi transmise également en rediffusion le mardi matin. Et pour ce samedi 20 avril, pas de journée internationale qui est décernée pour cette date. Donc on ne saura rien pour la journée internationale du 20 avril, mais l'éphéméride est quand même assez important. C'est notamment en 1972, le 20 avril, le module Orion de la mission Apollo 16 se pose au cœur des montagnes lunaires. En 1972, on allait sur la Lune et en 2019, on continue encore à vouloir aller sur la Lune, comme quoi la Lune est quand même le lieu prisé et c'est tant mieux. Le 20 avril 2010, il y a une marée noire dans le golfe du Mexique suite à l'explosion de la plateforme pétrolière Deepwater Horizon. C'était donc une marée noire en 2010. Au niveau de l'éphéméride, eh bien on va célébrer la naissance le 20 avril 1786 de Marc Seguin, scientifique, inventeur, ingénieur, entrepreneur français. Il expérimente en 1822 le premier pont suspendu à fil de fer au monde, c'est au-dessus de la Canse. Puis il construit sur ce modèle en 1925 à Tournon-sur-Rhône le premier grand pont suspendu d'Europe continentale. Il va également breveter en 1827 la chaudière tubulaire conçue pour des bateaux à vapeur qui naviguent sur le Rhône. Et deux ans après, il applique cette invention aux locomotives à vapeur. La locomotive Seguin qui fait ses premiers tours de roue le 1er octobre 1829. Elle circule sur la ligne de chemin de fer de Saint-Étienne à Lyon qui est concédée aux frères Seguin en 1827. La première ligne de France a expérimenté en 1832 la traction par des locomotives à vapeur et avoir été ouverte simultanément aux marchandises comme aux voyageurs. Il est auteur de très nombreuses publications scientifiques. Marc Seguin, il est élu correspondant à l'Académie des sciences dans la section de mécanique en 1845. Il meurt en 1875. Marc Seguin. Décès de William Carl Peters, qui est un zoologiste et un explorateur allemand, qui est donc décédé le 20 avril 1883 à Berlin. C'est un fils de Pasteur. C'est pas le fils de Pasteur, Louis Pasteur, non, pas du tout. Il est fils d'un pasteur. Et William Peters commence en 1834 des études de médecine et d'histoire naturelle à l'université de Copenhague, puis à celle de Berlin où il va passer le reste de sa carrière. Et il passe 18 mois à travailler sur le terrain dans la région méditerranéenne également. Ce zoologiste explorateur allemand, William Peters, décédé donc le 20 avril 1883. Voilà cet éphéméride qui nous permet un petit peu aussi de nous intéresser au parcours de certains scientifiques dont les noms ne nous disent plus grand-chose malheureusement aujourd'hui. 2019, oh là là, année internationale du tableau périodique des éléments, donc toutes les semaines dans cette émission, depuis janvier, nous remplissons ensemble le tableau périodique des éléments et là on va s'intéresser, parce que dans le tableau périodique il y a l'oxygène, le carbone, l'hydrogène, on connaît tout ça, mais alors là, aujourd'hui, on va parler du zirconium. Le zirconium, il est solide et il est résistant et il possède plusieurs applications. Sous forme d'oxyde, il est connu des joailliers pour son éclat depuis des milliers d'années. Il est utilisé également pour fabriquer les couteaux à lame céramique qui sont résistants et qui ne s'oxydent pas. Et comme il n'absorbe pas les neutrons, eh bien le zirconium est employé également dans les réacteurs nucléaires. Grâce à sa brillance, eh bien la beauté pureté du dioxyde de zirconium est comparable à celle du diamant. Ça se trouve, vous avez une bague avec du zirconium. Le zircon, c'est une pierre semi-précieuse qui a été ainsi nommée pour ses teintes jaunes. Son nom vient du persan zargoun, qui désigne la couleur de l'or. Et c'est en analysant cette pierre que le chimiste allemand Martin Kalprow découvrit en 1789 qu'elle contenait un nouvel élément chimique sous forme d'oxyde. Et donc le nom de zirconium est alors proposé en 1808 par Humphrey Davy, qui va tenter en vain de l'isoler. Et ça sera beaucoup plus tard, en 1824, que le Suédois Jacob Berzelius va parvenir à isoler le zirconium métallique. C'est donc un élément chimique important qu'on utilise donc notamment dans les réacteurs nucléaires. Le zirconium, symbole chimique grand Z petit r, et numéro atomique le 40. Nous avons donc rempli tous ensemble la case 40 du tableau périodique des éléments. Dans cette émission, on va s'intéresser aux vols spatiaux qui vont réactiver les virus dormants de certains astronautes. On va essayer de produire de l'hydrogène à partir de l'eau de mer. Ça peut être possible, apparemment, nous dit-on. Et puis, on va également s'intéresser aux chimpanzés. Tiens, un petit peu de des animaux également, on va pouvoir parler de cela. La NASA qui va inventer un nouvel ADN pour chercher une vie extraterrestre. On va creuser un tunnel sous Las Vegas, pourquoi pas, ça peut être intéressant. On va essayer également de nous intéresser à l'intelligence et à la sensibilité des plantes. Et puis, on va aussi s'intéresser aux mâles drosophiles, cette petite mouche du vinaigre. Les mâles zoophiles, eh bien, sont tués par la frustration sexuelle. Voilà, c'est Biotine, l'émission de science assez cosmopolite. Dans cette émission, on va aller partout, on va s'intéresser à tout. C'est ça la science et c'est ça qui est intéressant dans Biotine, qui est aussi une émission musicale. Donc on va écouter tout de suite Beat a Science sur l'antenne et on se retrouve juste après pour feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique. I won't be leaving till the light of the sun. There ain't no point in tears of grieving, no deceiving, you know how it's done. You'll always be the only one. I'm taking my chances in love with just one. Got my heart on the real song. You'll always be the only one. I'm taking no chances, my choosing is done. And I'm far from a hero. You'll always be the only one. Don't think about the worst of mama, I'm just out to hold you down. Just pick up the vibe, right? Then ain't no need to shop around. Ain't taking no chances, mama, I know you's the only one. No time for no broke romances, I swear now the game's done. I'm taking my chances in love with just one. Got my heart on the real soul. You'll always be the only one. I'm taking no chances, my choosing is done. And I'm far from a hero, you'll always be the only one. And when I wake up in the morning, you'll be gone and I'll be back on the run. And I ain't mad at you for leaving, that's the reason why we both chose to come. You'll always be the only one, you'll always be the only one. Taking my chances in love with just one. Got my heart on the real soul. You'll always be the only one. I'm taking no chances, my choosing is done. And I'm far from a hero. You'll always be the only one. I can't go, leave you alone. I can't go, leave you alone. I can't go, leave you alone. Can't go, leave you alone. No, 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 no. I'm taking my chances in love with just one. I'm taking my chances in love with just one. I'm taking no chances, my choosing is done. Ain't taking no chances, my choosing is done. I'm taking my chances in love with just one. My choosing is done. Ain't taking no chances. Only One, c'était Beatles Alliance sur l'antenne de Graphite. C'est sympa, ça, je connaissais pas du tout. C'est tiré de son album Only One. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h. On s'intéresse à l'actualité scientifique et on va s'intéresser à ce qui se passe dans l'espace. Les astronautes qui sont exposés à la microgravité, au rayonnement cosmique, au décollage et au retour sur Terre, ils subissent aussi des accélérations extrêmes. Ce sont des défis physiques qui peuvent être aggravés par divers facteurs de stress comme l'isolement ou la perturbation des cycles veille-sommeil. Et donc pour étudier les effets physiologiques des vols spatiaux sur les astronautes, des chercheurs de la NASA ont analysé des échantillons de salive, de sang, d'urine avant les missions, pendant les missions et après leur retour sur Terre. Ils ont découvert que les virus de l'herpès sont réactivés chez plus de la moitié des membres d'équipage et les taux de réactivation augmentent avec la durée des vols. Pendant les vols, la sécrétion d'hormones du stress, le cortisol, l'adrénaline, eh bien cette sécrétion d'hormones du stress augmente. Or, elles sont connues pour affaiblir le système immunitaire, c'est ce qu'explique le docteur Satish Mehta. Ainsi, les cellules immunitaires des astronautes se révèlent moins efficaces et parfois même jusqu'à 60 jours après leur retour sur Terre, de quoi permettre aux virus dormants qu'ils portent en eux de se réactiver. Jusqu'à présent, cette réactivation virale est généralement restée un petit peu neutre, en tout cas asymptomatique, mais le risque existe de contaminer des personnes immunodéprimées ou des jeunes enfants quand ils reviennent sur Terre, car le virus reste actif jusqu'à 30 jours après et l'ampleur, la fréquence, la durée de l'excrétion virale augmente avec la durée du vol spatial, c'est ce que précise justement le docteur Satish Mehta. Ainsi, la mise au point de mesures pouvant contrer la réactivation virale apparaît essentielle au succès des futures missions humaines sur Mars. Mais voilà, on se rend compte donc que ces vols spatiaux réactivent les virus dormants des astronautes. C'est assez nouveau. En tout cas, on ne s'était pas encore posé la question. Donc, est-ce qu'il va falloir les mettre en quarantaine quand ils reviennent sur Terre? Ils sont déjà isolés dans l'espace. On va les isoler quand ils reviennent sur Terre. C'est assez inquiétant à voir, en tout cas, mais c'était assez inédit comme information en ce qui concerne l'espace. Si on revient sur Terre, on va s'intéresser notamment à l'hydrogène qui est l'élément le plus abondant dans l'univers. Pourtant, il reste rare sur Terre et avant de pouvoir l'utiliser comme combustible, un combustible vert, il faut donc produire cet hydrogène et c'est en théorie possible assez facilement. Un panneau solaire, des électrodes, de l'eau, c'est tout ce qu'il faut en principe pour réaliser ce qu'on appelle une réaction d'électrolyse à partir de laquelle on pourra tirer de l'oxygène et de l'hydrogène. Le bémol, c'est que l'eau utilisée doit être pure. Or, l'eau pure, elle reste bien sûr précieuse et elle reste assez coûteuse si on veut en produire. Donc, il y a des chercheurs de l'université de Stanford aux États-Unis qui se sont demandé s'il pouvait être possible de réaliser l'opération à partir de l'eau de mer. Ah oui, parce que l'eau de mer, on en a quand même pas mal, on pourrait l'utiliser. Elle contient pourtant des ions chlorure chargés négativement et qui vont risquer de pouvoir agir et entraîner une corrosion des électrodes qu'on pourrait utiliser. Les chercheurs ont découvert qu'en couvrant l'une des électrodes, eh bien, elle pouvait repousser ces fameux ions chlorure. Il y aurait donc d'abord l'idée de pouvoir placer une espèce de mousse de nickel qui va essayer de jouer le rôle de conducteur. Et puis, on va essayer de pouvoir déclencher cette fameuse réaction d'électrolyse. Et avec des courants identiques à ceux qui sont utilisés dans l'industrie, eh bien, on s'est rendu compte que ces électrodes pouvaient résister plus de 1000 heures contre 12 heures seulement si on utilisait l'expérience simple avec de l'eau de mer. C'est ce que souligne l'un des chercheurs de cette université de Stanford, il s'appelle Michael Kenway. La validité du procédé a été prouvée en laboratoire. Ok, reste maintenant à pouvoir la transférer à grande échelle et ça, c'est pas encore totalement gagné, mais on va pouvoir essayer de mettre en place ce dispositif grandeur nature. Et donc, on pourrait, donc on est encore dans le conditionnel, ça reste un prototype. Donc, quand c'est un laboratoire, ça fonctionne. Hein. Après, il faut voir ça, mais on pourrait éventuellement produire de l'hydrogène à partir de l'eau de mer. Ça serait possible et ça serait pas mal et ça serait une superbe piste, là encore, à suivre également pour l'énergie future. Mon Dieu, c'est assez prometteur tout ça. Allez, on va essayer de retourner dans l'espace et on va essayer de détruire un astéroïde avec une bombe nucléaire. Vous savez, comme dans le film avec Bruce Willis. Apparemment, c'est plus difficile que prévu. On regarde ça juste après ce titre sur l'antenne de Graphite. Voilà, c'était, je récupère quand même l'album, c'était Je vous embrasse de Petit Prince sur l'antenne de Graphite. Alors, je vous parlais de ce film avec Bruce Willis à Armageddon, avec l'idée de faire exploser avec des armes nucléaires les astéroïdes de taille d'au moins un kilomètre sur le point de détruire, détruire la Terre tout simplement. Donc on fait des superbes films de science-fiction. En fait, l'idée elle est très risquée parce que faire exploser un astéroïde bien en approche, ça ne pourrait que en fait multiplier différents impacteurs de grande taille, et puis certains vont le rester suffisamment pour atteindre le sol, et donc ça serait pas aussi génial que ça. La bonne solution, ça serait de repérer suffisamment tôt un astéroïde menaçant et de dévier sa trajectoire avec un tracteur gravitationnel, nous dit-on. Toutefois, cela n'a pas empêché certains d'étudier ce qui pourrait se produire si l'on décidait d'employer des têtes thermonucléaires pour passer de la science-fiction à la réalité, ou simplement d'envoyer un projectile dont l'impact pourrait changer la trajectoire de l'astéroïde, qui est un petit peu dangereux. Et donc la dernière étude en date sur ce sujet se trouve dans un article du journal Icarus. Une étude menée par Charles Ramesh de l'université Johns Hopkins, et qui a donc travaillé avec d'autres chercheurs, et ils ont mené des simulations plus réaliste de ce qui se passerait pour un astéroïde soumis à une explosion nucléaire, ou plus exactement dans le cas présent, qui subirait l'impact d'un autre astéroïde de taille à peu près similaire. Au début des années 2000, il y avait des calculs qui avaient été faits sur ordinateur avec une rencontre entre un astéroïde d'un kilomètre et un autre de 25 kilomètres. Mais cela avait conduit à la conclusion que les deux objets seraient bien pulvérisés. Et donc, dans les nouvelles simulations qui ont été conduites par ces chercheurs américains, eh bien, on a essayé de prendre un petit peu plus de données un petit peu plus fines et un petit peu plus réalistes pour mieux prendre en compte le comportement des matériaux qui vont constituer les deux astéroïdes, et essayer également d'avoir un petit peu plus d'informations sur la vitesse de propagation des différents éléments qui pourraient être fracturés. Et il s'est avéré que les astéroïdes était bien plus résistant que prévu, et qu'il devait subsister un important noyau rocheux, bien qu'il soit un petit peu fracturé. En tout cas, il y a un élément qui reste assez important et qui pourrait essayer de causer de graves dégâts également. Des résultats qui ne sont pas totalement surprenants. Il a été possible de calculer la densité de certains astéroïdes, et même si certains semblent poreux comme des grosses éponges quelque part, il y a quand même des assemblages de fragments qui fait qu'il reste encore quand même des noyaux assez durs. Et donc c'est pas aussi simple que cela, et on se dit que finalement on pourrait en détruire certains, mais pas tant que ça. Et ces simulations qui ont été menées montrent que c'est assez difficile de pouvoir détruire un astéroïde avec une bombe nucléaire. Je trouve que celui qui a eu l'idée de se dire, bon, finalement Bruce Willis l'a fait, il n'y a pas de raison qu'on essaye de voir si c'est possible de le faire concrètement, et que finalement on se rend compte que c'est pas si simple que ça, eh bien voilà, je trouve que c'est une bonne idée. Ils ont dû bien se marrer, les chercheurs, même si le travail a été sûrement fastidieux, pour essayer de récupérer des données vraiment assez justes et avoir aussi des informations précises et en grande quantité pour essayer d'aboutir à des résultats qui soient quand même un petit peu des résultats assez, assez justes également, ou en tout cas plausibles. Et finalement, les premiers éléments que l'on a, alors qu'on a maintenant des super calculateurs, nous montrent que le scénario qu'on avait envisagé n'était pas le bon. Donc voilà, c'est plus difficile que ça, que de détruire un astéroïde avec une tête thermonucléaire. Ok, bah écoutez, mes enfants, on a compris le message, on ne fera pas ça, on fera autre chose, on essaiera de trouver quelque chose, mais bon, ça ne va pas être vraiment intéressant à faire, à suivre, bien sûr. Alors, avant de revenir sur Terre, voire sous Terre, avec ce qui se passe sous Las Vegas, cette information qui est passée un peu inaperçue, qui concerne la NASA. Et la NASA et l'ADN. Alors l'ADN, on le sait, hein, c'est le support de l'information génétique qui va se transmettre d'une génération à une autre. Et ces messages sont codés avec 4 nucléotides qu'on peut comparer un petit peu à des lettres, tout simplement parce qu'on les a associés à des lettres, et comme ça c'est beaucoup plus simple pour en parler, le G, le A, le T et le C. Mais est-ce qu'il est possible que des êtres extraterrestres puissent utiliser un autre système? Eh bien, il y a des laboratoires universitaires financés par la NASA qui ont créé une molécule support de l'information qui utiliserait 8 lettres au lieu de 4. Ils ont baptisé cet ADN Hashimoji, ce qui signifie en japonais 8 lettres, 8 Hashi lettres Moji, donc ils ne se sont pas foulés, et ça s'appelle Hashimoji, et cette molécule forme une double hélice qui peut stocker et transmettre de l'information. Pour Steven Benner, l'un des auteurs de cet article qui est paru dans la revue Science quand même, eh bien, en analysant soigneusement les rôles de la forme, la taille, la structure de cet ADN Hashimoji, eh bien, ce travail permet de mieux comprendre les types de molécules susceptibles de stocker des informations dans la vie extraterrestre. Dans un communiqué, la directrice de la division des sciences planétaires de la NASA, Laurie Glaze, elle a déclaré que la détection de la vie est un objectif de plus en plus important des missions de sciences planétaires de la NASA. Ce nouveau travail nous aidera à développer des instruments et des expériences efficaces qui élargiront la portée de ce que nous recherchons. L'un des objectifs de la NASA est de chercher de la vie sur Mars et notamment sur des satellites du système solaire. Et donc, en inventant ce nouvel ADN, on pourrait obtenir un petit peu plus d'informations. Donc voilà, la NASA a créé un nouvel ADN à 8 lettres cette fois-ci pour essayer de détecter de la vie extraterrestre. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, c'est de la science-fiction qui devient de la science-réalité maintenant. On va parler un petit peu de ce qui se passe sous Las Vegas et on parlera également des chimpanzés. Tout de suite après ce titre, on va écouter Adore sur l'antenne de Graphite. À tout de suite. C'était Watch Me de Adore sur l'antenne de Graphite. Tous les samedis entre 12h et 13h et tous les mardis pour la rediffusion entre 10h et 11h, vous vous intéressez à l'actualité scientifique et vous avez bien raison, tant mieux pour vous. C'est un très bon geste que vous êtes en train de faire, c'est de vous intéresser un petit peu à ce qui se passe dans les laboratoires du monde entier. Il y a aussi également des entreprises qui investissent pas mal d'argent pour essayer de développer des concepts et des technologies assez innovantes. Et on va partir à Las Vegas, qui semble bien parti pour être l'une des premières villes américaines à bénéficier d'un système de transport par tunnel conçu par The Boring Company. Et il y a une agence gouvernementale qui a pour mission de développer le tourisme à Las Vegas et qui vient donc de donner son feu vert, je vais y arriver, au projet proposé par l'entreprise d'Elon Musk, l'idée de percer un tunnel de transport par navettes électriques autonomes qui va desservir le palais des congrès de la ville. Ce consortium accueille entre autres le fameux Consumer Electronics Show, là, ce fameux gala international tous les ans à Las Vegas pour découvrir les technologies totalement innovantes. Le site fait l'objet d'un vaste projet de rénovation et d'agrandissement de plus de 80 hectares. Une fois achevé, les halls d'exposition vont s'étirer sur 3 km, d'où l'appel à projet qui demande de créer un système de transport capable d'absorber les déplacements d'1 million de visiteurs qui fréquentent justement ce centre chaque année. La proposition donc de The Boring Company prévoit une ligne composée de 7 arrêts desservant les différents bâtiments. La capacité du système de transport serait de 11 000 passagers à l'heure, ce qui est quand même assez important. Aucun détail n'a été fourni quant au type de véhicule qui sera utilisé. Lors de la présentation de ce tunnel d'essai creusé depuis le siège de SpaceX en Californie, eh bien Elon Musk avait dévoilé un nouveau système de guidage qui permettra à n'importe quelle voiture autonome d'y circuler. Il s'agit d'une paire de roulettes de guidage qui se déploient de chaque côté des roues avant. Il est aussi prévu de créer des navettes autonomes sur la base du Tesla Model X qui feront du transport au commun. C'est peut-être cette option qui sera retenue pour le tunnel de Las Vegas. Et donc, dans un communiqué, l'agence gouvernementale indique que le coût de cette infrastructure de transport est estimé entre 35 et 55 millions de dollars. C'est quand même assez vaste, je trouve, parce qu'entre 35 et 55 millions, c'est quand même assez important. Sa mise en service est espérée pour le fameux gala de janvier 2021, donc dans moins de 2 ans. Si le système fait ses preuves, il est prévu de l'étendre sous la ville pour desservir les hôtels qui vont jalonner le Las Vegas Boulevard, l'aéroport international également, ainsi que le Las Vegas Stadium. La Boring Company va maintenant finaliser les plans de conception et de construction en vue de leur approbation finale en juin prochain. Et comme à son habitude, Elon Musk s'est montré très optimiste sur le délai d'achèvement du projet. Sur Twitter, il dit espérer que le tunnel sera opérationnel d'ici la fin de cette année. Mon Dieu, ils vont construire un tunnel, ça va être avec des véhicules autonomes. Ça se passe à Las Vegas et c'est en direct, c'est en train de se faire. On suivra bien sûr, parce que d'ici la fin de l'année, on aura peut-être la fin de ce fameux projet qui est donc développé à Las Vegas. Allez, on va parler un petit peu des animaux. Il y a déjà longtemps qu'on ne parle plus d'animaux dans cette émission. Mais quand il n'y a plus Carole, on ne parle plus d'animaux. Donc je me suis dit quand même, je vais essayer de retrouver certains articles. Et notamment, on va parler des chimpanzés. On sait que dans le langage humain, il existe une règle que les linguistes connaissent sous le nom de loi d'abréviation de Zipf. En fait, elle stipule que les mots les plus fréquemment utilisés ont tendance à être courts. La loi de Menzerat, quant à elle, énonce que plus un objet linguistique est constitué d'éléments, plus ces éléments sont courts, ces règles s'appliquent quelle que soit la langue considérée. Des chercheurs de l'université de Roehampton, c'est au Royaume-Uni notamment, se sont alors demandé si ces principes se retrouvaient aussi dans les modes de communication d'autres animaux. Ils ont donc étudié des séquences vidéo de chimpanzés sauvages qui vivent en Ouganda. Alors ceux-ci, bien sûr, ne parlent pas, mais ils communiquent entre eux à l'aide de signes. Et ainsi, les chercheurs, ils ont pu identifier environ 2 2000 exemples de gestes uniques employés par ces chimpanzés, des gestes de la main, des postures corporelles, des expressions faciales et même quelques sons qu'ils peuvent être amenés à combiner pour transmettre une grande variété de messages. Et donc, il y aurait 58 gestes uniques qui seraient employés par ces chimpanzés. Ces travaux ont confirmé que les règles du langage humain s'appliquent aussi à la communication entre chimpanzés. Les gestes les plus couramment utilisés par ces grands singes sont aussi donc les gestes les plus courts. Et lorsqu'une séquence de gestes exécutés par un chimpanzé est longue, elle est généralement composée de gestes courts également, donc des conclusions qui encouragent les chercheurs à se demander si ces principes de base se retrouvent aussi chez d'autres espèces comme le bonobo, et donc ils vont continuer leurs études. Mais en tout cas, c'est assez intéressant parce qu'on se rend compte que chez le chimpanzé, je vais y arriver, chez le chimpanzé, les règles de communication sont les mêmes que chez l'homme. C'est assez bluffant, même si quelque part, ça semblait peut-être aussi une évidence, comme nous sommes tous des grands singes. Allez, on va continuer à écouter un petit peu de musique et puis on va poursuivre de le feuilletage de la revue de presse de l'actualité scientifique. Sur l'antenne de Graphite, on va écouter La Maison Tellier, tirée de son dernier album Primitif Moderne, sur l'antenne de Graphite. A tout de suite.
J'aime les garçons qui courent sur place. Vont-ils dans le mur? Génération A, enchantée de nos positions, démissionnée. Longtemps je n'ai plus vu personne. Je trouvais les gens monotones. Relancer la fête, oui, mais comment faire si tout le monde éteint ses lumières? Partout des shérifs enferment les primitifs modernes, hyper oisifs. Primitif moderne. Puisqu'on nous dit la paix, c'est la guerre, et qu'aujourd'hui y a tout pour nous déplaire, crachons sur les vieux de la veille.
La Maison Tellier, nouvel album qui est sorti il y a moins d'un mois, fin mars, Primitif Moderne. Sur l'antenne de Graphite, vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h et vous avez bien raison, on s'intéresse à l'actualité scientifique et je vais vous demander quel est le point commun entre un loup-garou, un vampire et une bactérie. Ah, eh bien, ils ne supportent pas l'argent. D'après la mythologie, les deux premières créatures, le loup-garou et le vampire, sont tuées si elles sont traversées par une balle d'argent. Et à l'échelle de la bactérie, en revanche, on ne peut évidemment pas utiliser les mêmes armes, mais le métal, l'argent, se révèle être un atout précieux contre les microbes. De nouvelles solutions d'argent, telles que l'argent colloïdal, permettraient de lutter contre ces microbes. Alors, durant l'Antiquité, le médecin grec Hippocrate, 400 ans avant notre ère, avait déjà compris que l'argent avait un effet antibactérien. Et on a longtemps utilisé l'argent pour lutter contre les infections. Il a désormais été dépassé par les antibiotiques sans que l'on ait compris quelles étaient les propriétés justement du métal. James Collins de l'université de Boston et ses collègues viennent d'apporter une réponse convaincante dans les colonnes de la revue Science Translational Medicine. L'argent agit sur le métabolisme bactérien à plusieurs niveaux et il est combiné aux antibiotiques. Il renforce même leur action. Voilà peut-être une nouvelle solution pour lutter contre les phénomènes croissants de résistance aux médicaments. L'utilisation trop systématique d'antibactériens a abouti à une sélection naturelle des souches de microbes capables de supporter les traitements qu'on leur oppose. Marginal au début, ce phénomène a pris une telle ampleur aujourd'hui qu'il inquiète au sommet des plus hautes instances sanitaires qui prennent des mesures afin de stopper le processus tant qu'il est encore temps. Les antibiotiques, c'est pas automatique par exemple. Le problème, c'est qu'actuellement, il y a de plus en plus de formes résistantes et de moins en moins de nouveaux antibiotiques. Alors, quelles sont les solutions à apporter ? Plusieurs pistes ont été suivies par différents laboratoires, mais James Collins emprunte celle justement de l'argent. Dans son étude, il est parvenu à montrer que le métal, l'argent, agissait de quatre façons sur les bactéries. Sous forme dissoute, l'argent a une forte affinité pour les groupements sulfure des protéines, il va pouvoir s'y fixer. Or, ces fameux groupements vont permettre à des protéines de se replier et de prendre une conformation un petit peu en 3D qui vont leur permettre d'être totalement actives. Et il va donc rendre, pouvant se combiner cela, rendre les protéines cette fois inutile à la bactérie. D'autre part, l'argent entre en concurrence avec le fer, dont les propriétés sont exploitées par certaines cellules. Et là encore, on a pu essayer de comprendre et de constater qu'il y avait certaines activités métaboliques qui pouvaient tourner au ralenti grâce à l'argent. Enfin, on s'est rendu compte que l'argent augmente ce qu'on appelle la perméabilité membranaire. En d'autres termes, les molécules vont mieux pénétrer dans la bactérie, si bien que si dans ces molécules on a des antibiotiques, elles vont être beaucoup plus efficaces parce qu'elles vont entrer directement dans la bactérie. C'est ça qui est intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on s'est lancé dans cette recherche pour essayer d'en savoir plus sur l'utilisation de l'argent. Des résultats nouveaux qui un petit peu sous-entendent qu'on peut faire du neuf avec du vieux. Mais encore, il faut par contre essayer de prouver l'innocuité du traitement chez l'homme. Et le passé ne sert pas forcément la cause de l'argent parce qu'on se souvient par exemple dans les années 1990, des chercheurs américains avaient développé une valve cardiaque particulièrement recouverte d'argent, et ce qui lui permettait de lui conférer des propriétés antibactériennes. Ça a marché ok face aux bactéries, par contre le cœur lui n'a pas bien réagi. On sait déjà qu'une exposition prolongée ou le fait d'ingérer de façon importante de l'argent peut conduire à une maladie qu'on appelle l'argyrie, qui se caractérise par une pigmentation permanente, un petit peu bleue, des gencives ou de la peau, ce qui n'est pas vraiment esthétique. Et James Collins rassure en expliquant que les études préliminaires menées chez la souris ne révèlent aucun effet indésirable. C'est un bon début, d'accord, mais il faudra désormais le confirmer sur des échantillons plus importants et puis ensuite, bien sûr, passer à la phase de test chez l'homme. L'argent colloïdal est donc une solution qui contient des particules d'argent en suspension, qui est commercialisé pour ses propriétés antimicrobiennes dans des médecines alternatives. L'utilisation de l'argent colloïdal en usage interne n'est pas autorisée en France, il faut quand même le savoir. Les préparations commerciales doivent indiquer que la solution ne doit pas être avalée par le consommateur. Elle peut s'appliquer par exemple sur la peau. Une étude de 2014 a trouvé que l'argent colloïdal réduit la croissance de la bactérie du staphylocoque doré. Donc voilà, il y a des applications qui peuvent être intéressantes avec l'argent, mais on n'a pas encore véritablement un recul assez certain sur l'innocuité de l'ingestion et l'utilisation de l'argent. Mais en tout cas, ce qui peut être intéressant, c'est qu'on se rend compte que l'argent multiplie par 1000 l'efficacité des antibiotiques. Donc voilà, il y a du bien, il y a du moins bien, il va essayer de falloir trouver un certain équilibre, bien sûr. Allez, on va écouter un dernier titre dans cette émission que je vais préparer en direct. Alors, on a découvert tout à l'heure Beat Assailant. J'ai découvert en même temps que vous. On va écouter un autre titre de cet artiste tiré de son dernier album Only One. Et on va écouter, allez, en direct, je vous mets la piste numéro 3. C'est Bad Boy sur l'antenne de Graphite. A tout de suite.
They're saying, girl is no good. Always end up misunderstood. Girl, it's alright. What you know about me? It's no lie, I'm alright for you. She's telling me now, this could be the last time. I don't wanna fall out. But she said to me, bad boy, you know I don't need you, I'm a bad girl. There's nothing between us that's exclusive, so don't fall in love. That I won't do. Ain't no space, then I make room. From the ride to the bedroom, put it in my next tune. And I never spit a word on your ex, dude. I don't ever wanna be rude, but I'm feeling things coming unglued. Tell me one time what's deep in your mind. We can make it alright. But she's telling me now, this could be the last time. That's exclusive, so don't fall in love.
Eh bien, on a découvert ensemble Beat Assailant sur l'antenne de Graphite, tiré de son album Only One. Et là, c'était le titre Bad Boy sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h sur l'antenne de Graphite. Et vous avez bien raison, on va partir à Clermont-Ferrand dans les locaux de l'Institut National de la Recherche Agronomique, l'INRA de Clermont-Ferrand. Et dans ces locaux, l'installation a des airs un petit peu de décor de cinéma pour un film de science-fiction. Dans une sphère de lumière blanche aveuglante qui est alimentée par plus de 90 néons, le chercheur Bruno Mouliat va installer une jonquille qu'il va incliner à l'horizontale et qui va être maintenue au milieu par un arceau métallique. Et une fois qu'on a refermé cette grosse boule de lumière, et donc à l'abri de toute autre lumière extérieure, eh bien la plante va essayer d'opérer une drôle de chorégraphie parce qu'elle baigne de toutes parts dans cette lumière, donc elle ne peut pas utiliser la lumière pour savoir où est le haut et où est le bas, et pourtant elle va complètement se redresser vers le haut, elle perçoit la gravité. C'est ce qu'il explique Bruno Mouliat, le directeur de l'université de recherche sur la physique et physiologie intégrative de l'arbre en environnement fluctuant. C'est le PIAF, c'est le nom de son unité de recherche à l'INRA de Clermont-Ferrand. Pourtant, si les plantes et donc les arbres poussent droit, ce n'est pas uniquement grâce à l'attraction terrestre. Avec son équipe, Bruno Mouliat a fait la découverte d'un autre sens que l'on croyait pourtant réservé à l'homme, ce qu'on appelle la proprioception, ou autrement dit, la perception de la configuration de son propre corps dans l'espace. Dans une autre expérience, les scientifiques ont positionné à l'horizontale des arabettes des dames, c'est une plante qui sert d'organisme modèle en biologie, et ils les ont installées à l'horizontale avant de les faire tourner sur elles-mêmes pour les empêcher de s'orienter par rapport à la gravité. Résultat, eh bien, cette petite plante, elle va continuer de pousser de manière rectiligne sans chercher à se redresser. L'arbre perçoit s'il est bien rectiligne ou courbé et il a la capacité de se rectifier et de contrôler son équilibre. C'est ce qu'il précise justement dans un communiqué qu'on peut avoir dans Futura Science. Chose encore plus inattendue, l'arbre possède le sens du toucher. En soumettant des plantes à des petites impulsions d'air, eh bien les chercheurs se sont aperçus que ces plantes savent très bien percevoir le vent et son intensité. Un arbre qui va se trouver confronté à un vent inhabituel va réduire sa croissance en hauteur et augmenter sa croissance en diamètre pour faire plus de racines. C'est ce que résume Bruno Mouliat. Grâce à des électrodes placées sur la tige de jeunes peupliers, ils ont aussi enregistré des réactions électriques similaires un petit peu à l'influx nerveux chez l'être humain lorsque ils sont fléchis par le vent. Il y a des informations que ce végétal enregistre dans sa mémoire pouvant varier d'une semaine à un an. L'arbre serait-il donc intelligent? C'est toute la question qui interroge la communauté scientifique. Les arbres combinent beaucoup d'informations. C'est plus complexe que de simples réflexes, mais est-ce que c'est pour autant de l'intelligence? C'est ce que questionne Bruno Mouliat. D'autres études démontrent encore que les arbres sont capables de percevoir des sons, des odeurs, de distinguer leurs voisins, de communiquer avec eux grâce à une série de capteurs. Pour percer le mystère et appréhender s'il existe chez les plantes une intelligence sans cerveau et éviter un petit peu tout anthropocentrisme, eh bien l'INRA collabore désormais avec des spécialistes de l'intelligence artificielle, car depuis peu, la thématique a trouvé un nouvel écho au sein de la communauté scientifique qui était longtemps sceptique. Au début, on nous prenait pour des uluberlus. Aujourd'hui, on sent un effet générationnel. Nos étudiants, ça les botte, c'est ce qui explique Bruno Mouliat, qui pointe aussi un petit peu l'effet Avatar. Vous savez, ce fameux film de James Cameron. L'intérêt se fait aussi sentir auprès du grand public. La preuve, avec le succès du livre du garde forestier allemand Peter Welben, ce livre « La vie secrète des arbres » qui a été vendu à plus d'un million d'exemplaires en France. Une prise de conscience de la sensibilité du végétal qui pourrait faire évoluer des croyances bien ancrées. Nos recherches font tomber le mur que notre civilisation occidentale avait dressé depuis Aristote entre animaux sensibles et capables de mouvements actifs et les plantes seulement capables de végéter. Eh bien, les plantes sont des êtres pleins de tact, bougeant tout le temps, mais à leur rythme, plus calme que le nôtre. Et donc, voilà, les scientifiques révèlent l'intelligence et la sensibilité des plantes et ça se passe à l'INRA de Clermont-Ferrand. Vous avez peut-être l'occasion de visiter les laboratoires de l'INRA de Clermont-Ferrand à l'occasion peut-être de portes ouvertes ou de fêtes de la science. N'hésitez pas parce qu'on se rend compte que dans ce laboratoire, on apprend et on découvre plein de choses. On parle aussi des plantes dans cette émission Biotine. C'est la fin de cette émission. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de Pâques. Si vous êtes en famille ou entre amis, profitez-en. Je vous remercie de votre fidélité. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle série d'émissions Biotine, l'actualité scientifique continue. On n'a pas eu le temps de, parce que c'est la fin de cette émission, je vous avais dit qu'on parlerait de la frustration sexuelle qui tue les mâles drosophiles. Eh bien écoutez, on en parlera peut-être prochainement dans une émission avec Carole. Je pense que ça va lui plaire, comme on parlera des animaux. On verra cela. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Vous continuez bien sûr à nous écouter sur le 94.9 sur la bande FM et graphite.net sur Internet. Bonne journée à tous. À bientôt. Au revoir.